des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, on revient sur sa question d'hier en chambre. Il exposait des passages du livre de François Legault, « Cap sur un Québec gagnant » de 2013. Passage étonnant contre l'étalement urbain et contre la construction de toujours plus d'autoroutes. Des passages qui auraient pu être écrits par Bruno Marchand, maire de Québec, ou même par un élu de Québec solidaire. Et ça nous permet d'écouter ça, quelques notes de deux chansons de Claude Barzotti. Mais d'abord, tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de...
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit.
Bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine Robitaille.
Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Alors, on fait le retour sur la semaine, puis un des sujets importants, ça a été le fameux chemin Roxham. Le chemin Roxham, c'est cet endroit-là par lequel plein de réfugiés qui viennent des États-Unis entrent de façon illégale, irrégulière, on ne sait jamais quel terme utiliser, au Canada, mais par le Québec, je pense que c'est 90 % des réfugiés qui viennent des États-Unis qui passent par là. Puis là, le premier ministre a dit qu'il fallait fermer ce chemin.
Oui, puis c'est pour ça que je te propose une chanson un peu particulière cette semaine.
Oui.
On peut peut-être l'écouter.
Réfugié, tu as tous les droits. Marcher à quatre pattes ou au pas de loi. Réfugié, tu n'as plus de loi. Plus de terre ou de combat.
Alors, pourquoi cette chanson-là, Antoine? Évidemment, parce qu'on en a parlé beaucoup cette semaine là, du fameux chemin Roxham, donc une voie d'entrée de l'immigration irrégulière au Canada et au Québec, évidemment. Mais il ne faut pas oublier que derrière tous ces chiffres-là, parce qu'on a connu des chiffres, c'est-à-dire que le gouvernement, par exemple, anticipe qu'il y aura une année record cette année de pas loin de 35 000 personnes.
Et c'est toi qui as révélé ces chiffres-là, justement, dans le journal là, cette semaine.
Oui, exactement. Donc, le gouvernement, les chiffres du gouvernement, là, en tout cas, si la tendance se maintient et que, parce qu'il y a toujours plus d'entrées l'été quand il fait beau, évidemment, là, ouais. Donc 35 000 entrées irrégulières cette année, c'est ce qui est prévu. Alors, ce serait évidemment une année record, là, c'est du jamais vu. Mais derrière tous ces chiffres-là, c'est des gens.
Ben
oui. Faut pas oublier que ce sont des gens et que pour décider de partir avec sa valise et sa famille et passer le fameux petit chemin Roxham qui a l'air de rien, là, faut savoir, là, c'est un chemin comme un autre, hein,
ben oui.
Mais qui permet de traverser la frontière avec les États-Unis, mais justement, et qui permet aux gens de venir au Canada demander l'asile au Canada sans passer par un poste frontalier.
Oui, parce que s'ils passent dans un poste frontalier, il y a une entente. Il y a une entente, l'entente sur les pays tiers sûrs qui va faire en sorte qu'ils seront refusés, ils vont dire aller faire une demande d'asile aux États-Unis.
Exactement. Donc là, ça, ce petit chemin qui n'a l'air de rien et qui n'aboutit pas sur un poste frontalier, mais qui n'est pas très loin de Saint-Bernard-de-la-Colle, bien, ça leur permet d'arriver en terre canadienne, donc, avant de demander l'asile. Et donc, c'est une façon irrégulière, mais ça leur permet de le faire et de contourner donc, cette loi-là qui les obligerait à l'origine d'aller vers les États-Unis, là. Donc, c'est des gens, évidemment, qui sont derrière tout ça. Et puis, ça ne doit pas être drôle, là, parce que dès qu'ils ont passé la frontière, il y a des agents de la GRC qui les attendent et qui les emmènent dans de l'hébergement qui est prévu à Montréal. En ce moment, il y a deux grands centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile qui traversent le chemin Roxane. C'est à Place du Puy, à Montréal, et puis je pense qu'il y a un YMCA proche d'Atwater. Là. Donc, mais le problème, c'est que là, la capacité d'hébergement du Québec, on n'est pas loin du 95% là, de saturation. C'est des gens qui restent entre 10, 15 jours, des fois un petit peu plus, dans les hébergements qu'on leur fournit. Mais lorsque la capacité d'accueil du Québec est dépassée, là, c'est le fédéral qui prend le relais. Puis en ce moment, le fédéral, son taux d'occupation pour les hébergements, c'est 72%. Là. Donc, tranquillement, ça augmente. Là. Donc, c'est ça qu'a dénoncé le gouvernement Legault cette semaine. Et le Parti québécois aussi. Et tous deux, donc, réclament la fermeture du chemin Roxham. Évidemment, là... Justin Trudeau, lui, la réponse a été assez rapide. Là. Il n'y en est pas question.
De fermer, non, c'est ça. Même si ça a été fermé pendant les grandes périodes de COVID. Là.
Tout à fait. Ça a été fermé pratiquement pendant toutes les vagues de la pandémie. C'est pour ça que, donc, dans les deux dernières années, il y a eu très peu d'entrées, évidemment. Mais une année normale, les années avant la pandémie, on était rendu autour de 18 000 entrées. Et puis là, comme je disais tout à l'heure, donc cette année, on anticipe 35 000, là, donc c'est pas mal plus, là, évidemment. Mais peut-être un point qui a pas été qui a été peu soulevé, il y a le Parti québécois qui avait soulevé ce point-là, qui était questionné là-dessus, en fait. Mais en fait, qui sont ces gens qui franchissent de manière irrégulière la frontière? En fait, le Parti québécois s'est fait poser la question par une des collègues à l'Assemblée nationale, là, du Devoir, Marie-Michèle Sioui. On peut l'écouter l'échange justement avec le Parti québécois.
Oui, la question portait sur la langue que parlent les différents réfugiés qui traversent la frontière au chemin Roxham.
Si vous me dites que vous ne savez pas quelle proportion ne parle pas français, pourquoi vous dites que ça met le français en péril?
Les entrées viennent des États-Unis qui n'utilisent pas le français et les entrées sont faites illégalement dans un chaos complet qui fait en sorte...
Ils parlent français quand même?
Oui, mais la proportion d'Haïtiens ou de francophones aux États-Unis, on peut le vérifier ensemble, là, mais c'est moins de 1%, je vous le confirme.
Bon, j'ai les quatre pays.
Donc, ce que je vous dis, c'est que la manière de procéder actuellement, c'est un chaos et c'est intentionnel probablement, ce qui fait que la question que vous posez, elle est légitime, mais vu qu'on agit de manière désordonnée, on sait que les entrées viennent des États-Unis, qui n'est pas un pays francophone, et on sait qu'ensuite, on est placé devant un fait accompli qui relève... non seulement d'une piètre planification, mais qui, en fait, place le Québec dans une situation de rattrapage constamment où ces questions fondamentales-là, on n'a pas la réponse, alors que si on fait correctement les choses, bien, on va se poser la question, quelle est la proportion de francophones? Où est-ce qu'on doit se situer? Mais le Canada insiste pour qu'on procède de manière illégale et dans un chaos qui n'a pas lieu dans aucune autre province canadienne.
On entendait donc Paul Saint-Pierre Plamondon, qui, curieusement, critique l'anglais, mais qui dit chaos, en tout cas, au lieu de chaos, un peu drôle, mais qui n'avait pas le chiffre hein, sur le nombre de francophones qui traversent, qui entrent irrégulièrement au Canada par ce fameux chemin Roxham.
Non, c'est sûr que c'est pas facile de savoir qui parle français et qui ne parle pas français, mais j'ai obtenu quand même des chiffres très intéressants, à savoir les principes pays de citoyenneté des personnes qui ont déposé une demande là, à la suite d'une entrée régulière. Et puis, c'est des chiffres tout récents. Donc, c'est cette année, là, depuis du 1er au 7 mai, du 1er janvier au 7 mai, donc depuis le début de l'année. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même le tiers des gens qui donc prennent le chemin Roxham qui proviennent, en fait, qui sont de leur citoyenneté, ils viennent d'Haïti à l'origine. Donc, le tiers, 33,4 %. Donc, on peut s'imaginer évidemment que ces gens-là parlent français. Ensuite, il y a le deuxième pays de citoyenneté, c'est la Turquie. Ensuite, la Colombie.
Quand même étonnant,
oui,
la Turquie.
C'est vraiment des... Oui, Turquie, 14 % quand même. Ensuite, la Colombie à 9 %. Puis ensuite, Chili, Brésil, États-Unis, évidemment, Venezuela, Pakistan, Pérou et Nigeria. Écoutez, c'est quand même des chiffres
c'est très varié.
Assez intéressants. Des pays. Oui, très, très variés, effectivement. Puis j'ai même les chiffres pour comparer des principaux pays de citoyenneté, donc des personnes qui ont déposé une demande, mais à la suite d'une entrée régulière au pays, c'est-à-dire par un poste frontalier. Et dans ce cas-là, le premier en lice, c'est à 45 % c'est des gens qui proviennent du Mexique. Donc, c'est très, très différent l'entrée irrégulière et l'entrée régulière. Ensuite, en deuxième, on a l'Inde et puis ensuite la Colombie, mais c'est vraiment majoritairement des gens du Mexique dans le cas des entrées régulières. Donc, des chiffres intéressants, puis peut-être aussi, ça nous donne peut-être une idée du fait
Mais Yadon, ça fait, juste pour revenir à la langue, là, Geneviève, il y en a quand même deux tiers qui ne parlent pas français.
Tout à fait, mais reste que tous ces gens-là, moi, ce que m'a dit le ministère, c'est que toutes ces personnes-là qui arrivent donc par le chemin Roxham, il n'y a pas 100 % de ces gens-là qui restent au Québec, évidemment. On parle de 75 % qui resteraient au Québec. Donc, mais après ça, savoir combien de ces gens-là parlent français, ça, c'est une autre histoire. On n'a pas les chiffres exacts et le gouvernement ne les a pas non plus, là.
Parlons d'aide médicale à mourir maintenant. Il y a un projet de loi qui devait être adopté après le dernier jugement qui considérait que la loi était insuffisante. Donc, élargissement de l'aide médicale à mourir. Où est-ce qu'on en est, Geneviève? Parce qu'on arrive à la fin de la session, là, puis il me semble qu'il n'y a pas de projet de loi de déposer.
Non, puis je t'avouerais que les partis d'opposition, justement, la semaine dernière, ont fait front commun. Là, on parle de Véronique Yvon, Vincent Marissal et David Birnbaum du Parti libéral. Tous des gens qui ont participé à la commission transpartisane qui a justement étudié cette question-là, d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont inaptes. Donc, des personnes qui, par exemple, souffrent d'Alzheimer ou de démence, donc de leur permettre, et la conclusion donc de cette commission-là, ils ont remis un rapport là, avant Noël, et la principale recommandation, donc, c'était d'étendre justement l'aide médicale à mourir aux gens inaptes en leur permettant de faire une demande anticipée. Et tous les partis étaient d'accord avec ça, là. Donc, c'est vraiment c'est assez rare quand même, ce genre de choses, d'événements, puis de transpartisans comme ça. Mais là, tout le monde était d'accord. Mais le problème, c'est que là, le temps passe. Et comme disait mon ancien prof de mathématiques au secondaire, le temps passé ne revient pas. Donc là, on arrive pas très loin de la fin de la session, là. On finit le 10 juin. Et le gouvernement n'a toujours pas déposé un projet de loi. Donc, les partis d'opposition, la semaine dernière, ont fait front commun pour réclamer rapidement un projet de loi. Là, ils sont prêts à l'étudier rapidement, là, mais il faut que quelqu'un le dépose. Il faut que le ministre Dubé le dépose.
Oui, il a été sommé de le déposer hier à la période de questions. On peut peut-être écouter un échange entre David Birnbaum du Parti libéral et Christian Dubé, le ministre de la Santé.
Notre rapport recommande l'adoption d'une loi permettant les demandes anticipées de l'aide médicale à mourir devant diagnostic de maladies graves et incurables de nature neurocognitive. Est-ce que ce gouvernement va déposer et faire adopter une loi à cet effet sans délai au nom de Sandra et tous les individus qui l'attendent?
Et avec un consensus de l'opposition, on est même capable de le voter avant la fin de la session. Alors moi, je vous dis, on fait tout dans notre possible en ce moment pour être capable de voter, de déposer et de voter le projet de loi.
Ce qu'on apprend du ministre Dubé, c'est que le projet de loi, donc, il n'est pas encore déposé. Il ne sera pas déposé demain matin, là. Il doit d'abord franchir l'étape que tous les projets de loi passent, c'est-à-dire les comités ministériels, le Conseil des ministres, et doit être ensuite déposé. Mais je te rappelle, Antoine, que là, on s'en va dans une semaine de relâche parlementaire, c'est-à-dire que ça ne siège pas du tout. Les députés sont dans leur circonscription.
Ou à l'étranger.
En théorie, Ça s'appelle une semaine de circonscription, enfin. Et donc, on ne s'attend pas à ce que le projet de loi soit déposé avant la semaine suivante. Et là, à ce moment-là, il restera seulement que 3 semaines au Parlement avant que les députés se disent au revoir pour l'été là, et pour la campagne électorale, on se le rappelle.
Mais oui.
Donc, les partis d'opposition sont très inquiets de ça, que ça ne soit pas déposé. Et le ministre Dubé, ce qu'il dit, c'est que finalement, c'est possible de l'adopter avant l'été si on a le consensus de l'opposition. Évidemment qu'il va y avoir le consensus de l'opposition, mais la question, est-ce que pour un projet de loi aussi délicat, ça veut dire qu'on entendrait donc, est-ce qu'il faudrait entendre des gens en consultation? Évidemment, c'est ce que souhaitent, j'imagine, les partis d'opposition. Mais là, on peut pas faire, est-ce qu'on peut adopter un projet de loi à toute vapeur, mais un projet de loi aussi délicat comme ça? Sur l'aide médicale à mourir, c'est une grande question. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là, mais je ne sais pas si c'est souhaitable. Et je pense que tout le monde se pose cette question-là, que ce soit dans l'opposition ou au gouvernement. Est-ce que c'est souhaitable d'adopter justement à toute vapeur ce projet de loi-là, de faire des consultations rapides, d'aller vite, article par article, sans compter que le ministre de la Santé, ce n'est pas son seul projet de loi là, au menu. Là. Il y a 3 autres projets de loi avant qu'il veut faire adopter. Les partis d'opposition sont très inquiets, même si le ministre dit qu'il veut le déposer, qu'il souhaiterait le faire adopter avant l'été, on verra. Mais ça sera intéressant même de voir si ils finissent par s'entendre pour aller de l'avant avant l'été.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est encore un vote libre? Hein? Tu te souviens la dernière fois, en 2014?
Oui.
C'est un projet de loi. À l'origine, je vous rappelle, la marraine du projet de loi qui était Véronique Yvon, ce projet de loi-là, donc tous les députés de tous les partis avaient eu la possibilité de voter librement et non pas selon la ligne de parti comme ils le font habituellement. Et puis, il y avait une 20aine de libéraux, si je ne m'abuse, là, qui avaient voté contre, qui ne se sentaient pas à l'aise avec ça. Et donc, là, faudra voir encore une fois si le gouvernement et les partis d'opposition permettront à leurs députés de voter librement sur cette question-là.
Bon, bien, c'est de graves questions qu'on se reposera dans 2 semaines, sans doute, quand les députés reviendront. On voit un goulot d'étranglement devant nous, Geneviève. Alors, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle fin de semaine. Puis on se reparle sûrement la semaine prochaine.
Merci, Antoine.
Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.